Aujourd'hui dans l'émission, je reçois Marc Petit, élu maire de Firminy à l'issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Alors depuis le 22 mars, vous êtes de retour à la mairie de Firminy. Je rappelle à nos auditeurs que vous aviez succédé à Dino Cinieri de mars 2008 à juin 2020, battu par Julien Luyat qui fut maire de juin 2020 à mars 2026. Beaucoup d'observateurs ne vous voyaient pas revenir à la tête de Firminy. Vous-même, avez-vous été surpris par les résultats au soir du premier tour et par l'ampleur de votre victoire ?
Alors, on était confiants. On était confiants parce que, pour deux raisons. D'une part, beaucoup d'aplous étaient très mécontents de la politique de M. Luyat, et ça s'est ressenti lors des élections. Et beaucoup d'aplous de toute sensibilité politique, tout le monde sait que je suis de gauche, mais même des aplous de droite, même parfois impliqués au niveau de la vie associative ou entrepreneur, et je sais de sensibilité droite, m'avaient sollicité pour que je sois candidat. Donc voilà, alors, c'est plus par rapport peut-être à l'ampleur du résultat. Mais sinon, non, on était confiants.
Justement, comment expliquez-vous l'écart de plus de 600 voix avec le maire sortant ?
Alors oui, tout à fait, c'est la première fois que je suis élu avec un tel écart, puisqu'il y a 11 points de pourcentage d'écart. Donc, alors que ça soit donc en 2008-2014, à chaque fois l'écart était beaucoup plus faible. La raison principale, enfin, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un rejet très très fort de la politique menée par la municipalité de M. Luyat, qui n'ont jamais écouté les aplous et qui n'ont même pas écouté leurs électeurs. Et la deuxième raison, les aplous de toute sensibilité estimaient, c'est ce qu'ils nous ont dit, et on l'a vu lors des élections, qu'on était la seule équipe à être capable de redresser notre ville.
Redresser, pourquoi ?
Parce que, tout le monde l'a vu, notre ville a décliné ces dernières années comme jamais, dans tous les domaines. Que ça soit, on le voit, au niveau, par exemple, de la situation commerciale en centre-ville, que ça soit au niveau de la situation financière, que ça soit sur les départs massifs. J'ai parlé en conseil municipal de tsunami. Au niveau du nombre d'agents municipaux, en 4 ans et demi, c'est 600 agents permanents de la ville et du CCS qui sont partis. Enfin, c'est 5 fois plus par rapport à la période où j'étais maire. Voilà, donc, tous les domaines, il y avait un très fort mécontentement. Et puis aussi, le fait que cette municipalité n'écoutait jamais les aplous. Que ce soit les aplous, les commerçants, que ce soit le monde associatif et les agents municipaux. Donc au bout d'un moment, forcément la sanction, quand on n'écoute pas, c'est au moment des élections.
Alors considérez-vous que votre réélection constitue une forme de confiance renouvelée des habitants malgré les polémiques ?
Alors oui, tout à fait. S'ils nous ont réélus, s'ils m'ont réélu, c'est qu'il y a une forme de confiance, je dirais même forte. Et ce qui nous a fait plaisir, alors maintenant ça fait 2 mois et demi, mais au moins durant un mois et demi, mais les aplous étaient heureux. Et d'ailleurs continuent certains encore à me le dire, mais vraiment étaient heureux. Certains l'avaient redonné le sourire parce que quand ils se retrouvent avec un maire et une municipalité qui n'écoutent pas, quelles que soient les demandes, dans une ville de notre taille, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc oui, une confiance, je dirais une confiance forte, et je les en remercie très très fortement. Très fortement, et on va tout faire. Les aplous nous connaissent, me connaissent, pour se battre à leur côté, pour les écouter, pour redresser notre ville.
Alors après 6 années quand même passées dans l'opposition, qu'avez-vous appris et qui vous servira pour ce nouveau mandat ?
Alors, qui me servira ? Pour vous dire, je ne vois pas bien ce que j'ai découvert durant ces 6 années d'opposition, ce qu'on n'a jamais fait, c'est par exemple m'empêcher de parler à de multiples reprises, même lorsqu'on m'attaquait, ce que j'ai toujours refusé. Le conseil municipal doit être un lieu de débat où chacun s'exprime. Ce que j'ai découvert aussi, c'est la capacité de mensonge des élus de cette municipalité. J'étais ahuri, vraiment ahuri. Donc, c'est malheureusement pas des bons souvenirs. Et je dirais pas des bons souvenirs pour les aplous. On le voit à l'image du résultat des élections. Il n'y aurait jamais eu un tel écart. Jamais eu.
Alors, vous êtes revenu aux responsabilités depuis maintenant presque 3 mois. Quelle était votre priorité dès votre installation ?
Alors, notre priorité, et là, je le dis pour tous vos auditeurs, on a pris 87 engagements. Il suffit de reprendre. C'est vraiment notre boussole, notre fil conducteur, et au niveau de l'ensemble des membres de l'équipe municipale. Voilà, donc on a... Alors, le gouvernement a décidé finalement que ce ne serait pas sur 6 ans, mais 7 ans. Mais voilà, c'est vraiment ce sur quoi nous engageons au quotidien pour mettre en œuvre ces 87 engagements. Voilà. Hein, et puis, alors, dans tous les domaines.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, hein, vous souhaitez gouverner différemment par rapport à votre prédécesseur, avec plus d'écoute. Vous allez, avec les habitants, travailler ensemble ?
Alors, vous vous rappelez peut-être, quand j'avais été élu maire là, de 2008 à 2020, on avait mis en place une démarche de démocratie participative, c'est-à-dire une démarche qu'on appelait de co-décision. Donc, c'est-à-dire que, et là, je me suis engagé avec l'ensemble des membres de notre équipe municipale, et ça sera respecté sur tous les grands projets. Nous proposerons des réunions de concertation où on associera les habitants. Je peux prendre un exemple. Au niveau de la place du Breuil, l'un des engagements qu'on avait pris, c'est élu, on arrêterait les travaux en cours au niveau de la place du Breuil pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils ont été effectués sans aucune concertation, qu'un bon nombre de commerçants étaient contre, qu'on ne les a pas écoutés. J'ai en tête des commerçants de la place du Breuil, mais qui étaient vraiment mes vents debout. Et ce que mesurait pas l'ancienne municipalité, mais il y a des commerçants, ils emploient des salariés, certains parfois même jusqu'à 10 salariés. Il faut être vigilant. Leur chiffre d'affaires est lié aussi sur l'accessibilité de leur commerce. Voilà, donc on s'est engagé là-dessus. Et ce sur quoi on s'est engagé, on le mettra en œuvre pour vous dire... Les commerçants, lors d'une réunion, nous avaient demandé qu'on puisse faire une réunion très rapidement. Et si mes souvenirs sont bons, on l'a fait le 9 juin, où c'était à leur demande qu'avec les commerçants. On a fait cette réunion donc à la mairie pour les écouter. On voulait savoir, est-ce que votre souhait, c'est que... Donc on a suspendu, on a arrêté tous les travaux de la place du Breuil. Est-ce que votre souhait, c'est qu'on puisse remettre en œuvre ce chantier au niveau de la place du Breuil ? Est-ce que pour vous, c'est une priorité ? Et dans leur très grande majorité, ils nous ont dit oui.
Alors, puisqu'on est dans le chantier de la place du Breuil, on va un petit peu y rester. Du coup, le marché est revenu, place du Breuil, le 4 juin. Comment ça s'est passé, ce retour de la place du marché ? Les gens y ont été contents ? Est-ce qu'il va rester, le marché, du coup, à la place du Breuil ? Ou est-ce que vous pensez quand même le remettre à la gare ? Comment ça va se passer ?
Alors, comment ça va se passer ? Là, pareil, on avait une demande qu'on a sentie dans le cadre de la campagne électorale, mais après, très forte des applous, je dirais facilement 80% des applous, souhaitaient que le marché non alimentaire revienne place du Breuil. Et d'ailleurs, ce marché non alimentaire qui était sur le parvis de la gare, c'était provisoire. Donc, tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, il allait revenir. Mais il y avait une demande forte des applous. D'une part, les habitants du quartier du Centre et de Firmin-Hiver, notamment des personnes âgées, ne venaient plus sur le marché non alimentaire par vie de la gare parce que ça leur faisait très loin. Et d'ailleurs, les professionnels du marché alimentaire me l'ont tous dit. Lorsque le marché non alimentaire s'est déplacé sur le bas du parvis de la gare, ils ont perdu des clients. Pourquoi ? Parce que les clients qui venaient au niveau du marché non alimentaire sur le parking de la gare, ben en fait, beaucoup ne remontaient pas. Et on a intérêt que ces deux marchés puissent être proches. Et il y avait une liaison, grâce justement au centre-ville, avec la rue de la Paix, entre ces deux marchés qui s'auto-alimentaient. Et d'ailleurs, un bon nombre de commerçants, à la fois rue de la Paix, rue du Marché, place du Marché, me l'ont dit aussi. Notamment, par exemple, des cafetiers, ils l'ont vu tout de suite. Moins de personnes venaient s'arrêter pour boire un café ou un verre. La boulangère me l'a dit aussi. Moins de personnes venaient acheter leurs baguettes, etc., etc. Voilà. Donc, on l'a fait vraiment pour les applous et on a eu un retour très, très positif. Très positif aussi, et je ne pensais pas autant, très sincèrement, de la réouverture de la voie qu'on appelle la Contre-Allée Est, c'est-à-dire la voie qui est vers la BNP, Bar des Platanes, Brasserie du Breuil, etc., côté hôpital. Voilà.
Et donc, justement, la partie qui n'a pas été rénovée, comment ça va se passer ?
Alors, merci pour votre question. Donc, on a écouté donc les commerçants qui nous ont dit on ne peut pas laisser la place en l'état. Parce que nous, la seule chose sur laquelle on s'était engagé, c'est qu'on fera une grande concertation avec les commerçants, les habitants, les usagers. Donc ils nous ont dit ça et ils nous ont demandé de partir du projet d'aménagement qu'on avait effectué au cours de nombreuses concertations sur lesquelles on avait abouti en 2019. Donc on va le ressortir. on va retravailler avec eux. Et comme prévu, on fera des réunions, une ou plusieurs, avec les habitants, bien évidemment, et avec les usagers. Notre objectif, on avait réussi à le faire, je rappelle, donc c'était en 2017, quand on avait proposé un projet d'aménagement au niveau du bas de la place du Breuil, que nous, au niveau de l'équipe municipale, on trouvait tous très beau. Il y a des commerçants qui avaient mis une affiche. Une affiche, disons, non à ce projet. Contrairement à M. Louya, par rapport à la place du Breuil ou la rue du Marché, rue du Marché, il y avait au moins 10 commerçants qui avaient dit non à la piétonnisation. On n'a jamais mené la politique du bulldozer comme M. Louya. Pour nous, quand on est maire, quand on est élu, on doit être à l'écoute de toutes et de tous. Et donc, ce qu'on avait fait, on avait arrêté. Et on avait organisé plusieurs réunions. Je ne pensais pas autant. Mais notre objectif, c'était de parvenir à une solution partagée. Il avait fallu 1 an et demi, 2 ans, mais au moins, au bout de ces 1 an et demi, 2 ans, on avait fait appel à un bureau d'études spécialisé au niveau aménagement commercial en centre-ville. Et on avait réussi à trouver, la grande majorité des commerçants étaient pour, grande majorité des habitants étaient pour, et des usagers. C'est ce qui compte. Hein, voilà, le maire, comme ses élus, ne sont pas là pour dire, voilà, il n'y a qu'à Faucon, non. Hein. Donc, là, c'est ce qu'on fera. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, donc, voir avec les commerçants sur ce projet, quelles sont leurs remarques, leurs propositions, etc. Et puis, bien évidemment, après, avec les habitants, les usagers, et puis, bien évidemment, toutes et tous ensemble.
Alors, durant votre campagne, vous aviez déclaré vouloir vous investir à 100%. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les habitants ?
Alors, 100%, c'est-à-dire me consacrer à ma ville. Et mon objectif au départ, c'était même d'arrêter complètement mon métier d'enseignant. Alors, j'ai pu réduire très, très vite. Je suis passé très vite à 50%. Maintenant, je fais un tiers de temps et bientôt, je serai un quart de temps. Donc, voilà ce qui me permettra de me libérer beaucoup. Pourquoi ? Parce que vu la taille de la ville de Firminy et vu malheureusement l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin et j'ai besoin de consacrer toute mon énergie actuellement pour notre ville et pour les Applous.
Alors, votre retour a suscité et suscite encore, en croire la presse et les réseaux sociaux, beaucoup de réactions et débats. Vous, personnellement, comment vous vivez ces critiques ?
Alors, qu'il y ait des réactions, des débats, je trouve ça normal. On est en démocratie. Donc, il y a des débats, non, c'est complètement naturel. J'aime bien les débats, d'ailleurs. Je me rappelle, lors des premières mandatures, des collègues de mon équipe municipale trouvaient même que je donnais trop la parole à l'opposition. Mais je trouve que, voilà, c'est normal, chacun s'exprime. Ce qui serait le plus intéressant, c'est que, voilà, le seul souci, que ça soit notre ville, les Applous, voilà. Mais qu'il y ait des débats, qu'il y ait des critiques, et surtout qu'il y ait des propositions, c'est ça qui serait le plus intéressant, je dirais tant mieux.
Alors, à Saint-Étienne Métropole, Firminy a perdu sa place de vice-présidence. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, Firminy, donc, a perdu sa place de vice-président. D'une part, j'ai pas voulu être candidat. Notamment, comme je l'évoquais juste à présent, étant encore pour l'instant à temps partiel en tant que professeur plus maire et vice-président, enfin, faut être sérieux, je sais qu'il y en a qui le font, mais à l'image par exemple de M. Louya, il était quasiment jamais présent au mairie de Firminy. Les agents de la ville ne le voyaient jamais. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas ma conception, vraiment. Et d'ailleurs, vous demandez à tous les agents de la ville, tout le monde voit la différence. Et donc, ce que j'ai souhaité, c'est que Jean-Paul Chartron, qui est un collègue élu expérimenté depuis de nombreuses années, qui est compétent, en qui j'ai une totale confiance, et donc il fait partie de l'exécutif de Saint-Étienne Métropole, donc il a été élu, et il s'occupe d'un dossier pour Saint-Étienne Métropole important qui concerne aussi notre ville, c'est le dossier de la rénovation urbaine et notamment de dossiers qu'on appelle En Rue 3. Voilà. Et tout ce qui est rénovation urbaine en rue, c'est des sujets importants pour notre ville aussi. Et donc, c'est bien parce que Jean-Paul Chartron, si des auditeurs ne savent pas, il est retraité. Et donc, on a de la chance justement d'avoir des collègues retraités et actifs. Voilà. Et donc, à plus de temps que moi. Et c'est un sujet, puisqu'il était adjoint à l'urbanisme, son métier c'était l'urbanisme, qu'il connaît parfaitement. Et là aussi, je me permets, on a de la chance. Dans notre équipe municipale, nous sommes 24 élus à être unis et surtout avoir des collègues élus qui ont des compétences dans des domaines multiples. C'est ça qui est très important. Voilà. Pas dans un domaine, mais dans tous les domaines qui concernent la ville. à l'image de ce que j'évoque avec Jean-Paul Charton au niveau de l'urbanisme, mais je pourrais citer beaucoup d'autres collègues.
Je crois savoir quand même que depuis votre élection, mais vous l'aviez aussi annoncé dans votre programme, certains dossiers vont ou ont été revus, renégociés ou même arrêtés. On peut en parler, par exemple, on peut parler de la future médiathèque et aussi de la Cité des Aînés. D'ailleurs, il y a un article qui est paru ce week-end sur la Cité des Aînés. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, sur ces deux projets, l'arrêt de la médiathèque, c'est un engagement qu'on a pris, on le respecte. Et voilà, beaucoup d'applaudis qui me connaissent ne sont pas surpris. Si d'ailleurs j'ai été réélu, si nous avons été réélus, c'est parce que à chaque fois, on est l'équipe municipale qui respectait les engagements pris, qui faisait tout pour les mettre en œuvre. De tête, au cours du premier mandat de 2008 à 2014, on était à 96% des engagements qui avaient été réalisés. Et on était dans le même pourcentage de 2014 à 2020. Et même pas loin des 100% si on comptait les chantiers qui étaient en cours et donc qui allaient être réalisés à l'avenir. Voilà, donc pas de surprise. Pourquoi on a pris cet engagement ? Là, pareil, on a écouté les applous. Mais la très grande majorité des applous étaient contre le déplacement de la médiathèque de Firmini, située boulevard Fayolle, en face de l'école du Mât, derrière la mairie, pour un coût de 12,7 millions d'euros. Enfin, c'était un coût pharaonique. Et en plus, pour tout vous dire, que j'ai découvert après, la responsable du service finance de la ville de Firmini. Le service finance de la ville de Firmini. Donc, les salariés de M. Louya et de sa municipalité les ont alertés que financièrement, ce projet ne passait pas. Enfin, vous vous rendez compte ? Ils n'écoutaient même pas leur responsable. Et donc, on l'a arrêté comme prévu. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Donc, des subventions avaient été obtenues par l'ancienne municipalité que sur ce projet. Et donc, notre objectif, c'est de tout faire pour maintenir ces subventions. Donc, concrètement, on a informé la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, en lien avec le ministère de la Culture, que notre projet, c'est de ne plus transférer la bibliothèque derrière la mairie, mais par contre de réhabiliter la médiathèque. Ce que nous avons dit d'ailleurs lors du conseil municipal, que le bâtiment en tant que tel, c'est vrai, il est énergivore, que ce bâtiment, il faille le moderniser, c'est vrai, mais on le sait très bien, on va être sur un coût beaucoup, beaucoup plus faible.
On entend dire justement qu'on va perdre toutes les subventions et que le coût de la rénovation va être peut-être autant élevé que le déménagement. Est-ce que c'est vrai ça ?
Alors non. Alors, pour vous dire, actuellement, sur les estimations qui sont faites, alors il n'y a pas d'études par les architectes, tout ça, les estimations qui sont faites par nos services, au niveau, par exemple, de notre service bâtiment, par le chef des opérations, on serait sur la réhabilitation, la rénovation de la médiathèque sur un coût de 4 millions. Donc vous imaginez, c'est trois fois moins. Et on se bat et on agit pour obtenir ces subventions. Voilà, parce que pour d'ailleurs beaucoup d'applous, ils ne comprenaient pas alors à la fois le coût et puis le fait aussi que la déplacer en centre-ville, déjà qu'il y a des difficultés pour trouver une place de stationnement, et on sait comment ça se passe, quand les gens ne trouvent pas de place de stationnement, ils partent. Alors que là, on a un parking dédié. Alors, c'est vrai que c'est un parking, alors je n'ai pas compté, au moins je pense de 20 places, mais pas très loin, il y a le parking de la place Chanonchos, où on trouve toujours des places. Donc vraiment, c'est un lieu culturel où on peut y accéder très facilement. En plus, à proximité aussi d'écoles. Voilà, enfin bon. Et d'ailleurs, j'avais demandé, puisque la médiathèque est très utilisée par les enseignants, parents d'élèves, est-ce qu'il y avait des enseignants et parents d'élèves qui avaient demandé ce transfert ? Non. Voilà. Donc là, pour vous dire, donc notre service y travaille dessus, et je les en remercie, en lien avec mon collègue adjoint à la culture, donc Hugo Fayolle, et donc on a sollicité donc un ou une architecte programmiste, voilà. Et même, pour vous annoncer un scoop, on réfléchit même, c'est le directeur de notre bibliothèque qui a eu cette idée-là, on y a commencé à y travailler dessus, c'est qu'au sein de la médiathèque, on accueille les archives. Puisqu'au départ, au cours de ma municipalité, si on avait été réélu en 2020, on avait prévu de réaliser le bâtiment des archives, ce qu'avait poursuivi donc de faire l'ancienne municipalité. Et c'est vrai que ce lien entre la médiathèque et les archives pourrait être extrêmement intéressant, voire enrichissant pour ces services et pour les habitants. Donc on est en train de réfléchir à ce beau projet.
Parlons maintenant de la Cité des aînés. Un article est paru ce week-end, le transfert du personnel. L'arrêt, vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette Cité des aînés, l'origine du projet avec l'ancien maire, M. Luya. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire et combien ça va coûter? Parce que quand on lit la presse, apparemment, ça va coûter très cher, voire même c'est impossible l'arrêt de ce projet.
Alors, l'appareil, c'est un engagement que nous avons pris et donc nous le respectons. Je suis surpris d'ailleurs, que ça soit de la part de M. Luya ou d'autres élus de l'opposition, qu'ils soient surpris qu'on respecte nos engagements. Mais enfin, quand on est élu, c'est pour mettre en œuvre les engagements qu'on a pris devant les habitants. Sinon, il ne faut pas être élu. Pour moi, il ne faut pas faire de la politique. Donc pareil, on a pris cet engagement, on l'a mis en œuvre. Donc pas de surprise. Et on le met d'autant plus en œuvre que la privatisation à marche forcée des trois foyers de personnes âgées contre l'avis du personnel s'est traduite depuis donc le 1er janvier 2026 par une situation, je pèse mes mots, de faillite financière du CCS de la ville de Firminy dès le 1er juillet 2026. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Pour deux raisons. Première raison, Aesio, qui a été choisi, a refusé de prendre des agents, contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris. Je donne un exemple. Le directeur du CCS, qui était directeur à mi-temps du foyer du Mail, on ne le veut pas. Voilà. Et je peux citer un bon nombre d'agents comme ça. Il y a même, et je trouve ça même honteux de leur part, on a en tout 12 agents qui avaient des problèmes de santé ou en reclassement, et des agents, notamment, c'était un certain nombre de femmes qui avaient parfois 50 ans ou plus, qui avaient des problèmes de dos, non, on ne les veut pas. Et donc, ces femmes qui étaient réparties sur les trois établissements, les trois foyers de personnes âgées, si notamment elles avaient des problèmes de dos, on sait très bien quand on travaille durant des années auprès de personnes âgées, et oui, ça peut être usant. Donc un minimum, je dirais, un minimum de respect, un minimum d'humanité. Et donc elles étaient dans ces trois foyers. Refus de les prendre. Voilà. Donc on se retrouve dès le 1er janvier. Et en plus, on a eu des agents qui n'ont pas voulu travailler pour le privé, qui ont voulu garder...
Ils ont refusé de signer leur transfert, c'est ça?
Exactement. C'était une convention de mise à disposition du 1er janvier au fin juin. Voilà, qui ont refusé. Et entre nous, je vois par exemple, quand j'ai rencontré le président du département de la Loire pour l'alerter sur la situation, il avait un foyer où ils l'ont, qui était public, un EHPAD, et qui a été géré par Aesio. Et ils avaient 7 agents qui avaient refusé. Mais la grosse différence qu'a découvert d'ailleurs Georges Giglère, président du département de la Loire, croyait qu'on avait d'autres EHPAD ou d'autres foyers autonomie. Or nous, les deux EHPAD et le foyer autonomie, on en a 3 sur la ville. Et donc concrètement, on a eu 12 agents. Donc vous le voyez, ça fait 4 agents par foyer, donc ce qui est nettement moins que ce qu'avait M. Georges Giglère, qui n'avait pas voulu cette convention de mise à disposition. Et puis là, au 1er juillet, j'avais demandé à Aesio d'être plus à l'écoute du personnel. Déjà, vous imaginez quand des agents sont par exemple aides-soignants ou infirmiers, c'est pas des agents qui roulent sur l'or ou qui font son ASH, etc., font de l'entretien, et quand certains agents ont une perte de salaire nette, mais comment voulez-vous dans la période actuelle que ces personnes acceptent? C'est pas possible. Et donc au départ, les 6 premiers mois, on avait 24 agents, et depuis le 1er juillet, on se retrouve avec 32. Donc, rien que déjà...
32 agents donc, qui sont payés par la mairie.
Alors, il y a, donc, j'ai alerté. Donc, il dépend du CCS de la ville de Firminy. Or, dès début juillet, le CCS est en faillite financière. Vous vous rendez compte? J'ai alerté d'ailleurs tous les partenaires.
Vous faites un peu peur quand vous dites faillite financière. Ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire concrètement, on ne peut pas payer les salariés. Donc, vous vous rendez compte? Ils ne veulent pas aller avec Aesio. Donc, ça monte vraiment... la situation, ils ne veulent pas aller avec Aesio et ils savent que la ville, actuellement, enfin le CCS, est dans l'incapacité de les payer. Et donc, on va les aider, c'est ce qu'on a commencé à en faire. Déjà, plusieurs agents ont trouvé. Nous, on ne peut pas les obliger à aller travailler avec Aesio. Aesio devrait être beaucoup plus à l'écoute. Déjà, quand on leur donne des conseils, de les prendre en compte. À l'écoute aussi du personnel. et donc trouver une solution. Donc on a quelques agents qui ont pu être reclassés au niveau de la ville. On a déjà plusieurs agents qui ont trouvé un poste, notamment je pense à des aides-soignants ou infirmiers, donc sur d'autres établissements, soit dans la vallée de Longden ou à proximité, et les aider pour trouver un emploi. Mais nous, en juillet, j'ai alerté tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a adopté un vœu, adopté une large majorité, très très grande majorité d'ailleurs, où j'avais alerté à la fois le département de la Loire, l'ARS, la préfecture. Et d'ailleurs, je remercie la préfecture. L'État a conscience de la situation financière catastrophique face à laquelle nous sommes.
Donc le but, c'était d'arrêter le projet, l'arrêter définitif, c'est ça?
Ah ben, soit, en fait, là, pour vous dire, rien qu'avec les 24 agents à l'année, c'est 1,2 million d'euros qui manquent. Voilà, 1,2 million d'euros. Nous, ces agents étaient financés grâce aux recettes des établissements. Donc quand ASIO refuse certains agents, ou quand on sait forcément que des agents ne veulent pas y aller, le CCAS n'a pas des ressources, des recettes miraculeuses. Ça n'existe pas, voilà. Et donc, soit nous aider financièrement. Alors, j'avais proposé pareil au président du département de la Loire, mais je connais la situation financière exsangue du département. Donc, je me doutais qu'il ne puisse pas. J'ai reçu tous les dirigeants nationaux d'ASIO avec ma collègue Jocelyne Gourgaud, avec le directeur du CCS, avec la directrice des services finances, etc. En leur demandant, je leur fais confiance. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas financièrement, je leur fais confiance. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, il faut qu'on trouve une solution partenariale. Et soit qu'ils puissent nous aider financièrement. Et pour vous dire, lors de la réunion qu'on a faite de tête le 4 juin, la préfecture, le secrétaire général de la préfecture, c'est-à-dire le numéro 2, comme le directeur d'ailleurs service légalité, etc., il y avait aussi le directeur des finances publiques, la Loire, donc ont demandé la préfecture à ASIO de faire un effort financier en direction du CCS. Voilà, de faire des gestes financiers, d'accorder des aides financières. Voilà. Pour l'instant, ASIO refuse tout. Donc, par rapport à nos demandes, mais même par rapport aux demandes de l'État. Et là, franchement, je leur ai dit, j'ai pas l'impression qu'ils soient guidés par un esprit mutualiste. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est uniquement un esprit marchand. Voilà, uniquement. Et d'ailleurs, lors d'une réunion qu'on a eue avec eux, je les ai alertés sur le fait que le CCS, à cause de cette privatisation, c'était en avril, pour vous dire, de tête, je crois que c'était le 29 avril, on allait se retrouver en faillite financière. La réponse du responsable au niveau de l'ensemble de la filière personnes âgées d'ASIO, c'était de dire « c'est votre problème ». Ils mettent en faillite financière le CCS et ils osent nous dire que c'est notre problème. Franchement, je leur ai dit d'ailleurs par mail, mais même des entreprises privées qui recherchent, comme ils disent, que le profit. Mais des entreprises privées implantées à Firminy n'ont pas ce comportement vis-à-vis de la mairie. Mais j'ai jamais entendu ça. Les entreprises privées ont le souci aussi de leur ville et ne feraient pas couler comme ça un CCS. Alors qu'ASIO, leur seul objectif, c'est de s'emparer de ces foyers, peu importe les conséquences pour le personnel, peu importe les conséquences pour la ville et son CCS, et je dirais même peu importe les conséquences pour les familles.
Mais alors aujourd'hui avec ce projet ASIO, est-ce qu'on peut encore faire marche arrière ? On en est où exactement aujourd'hui ? Est-ce qu'on va être obligé ou est-ce qu'on peut revenir au début de l'histoire ?
Alors, la municipalité de M. Louya avec ASIO, vraiment main dans la main, ont tout fait pour accélérer ce projet et le rendre irréversible. Ont signé des conventions juridiques, ayant peur que, à la fois la municipalité de Louya de perdre les élections, et ASIO qui a un changement au niveau de municipalité, donc, il manque bien encore qu'ils étaient guidés uniquement par ce projet, mais pas par l'intérêt au niveau des aplous, ont tout fait vraiment pour ficeler ce projet. Donc concrètement, ce qu'a dit d'ailleurs le secrétaire général de la préfecture, le numéro 2, donc il est possible de revenir en arrière. Par contre, il faut que ça se fasse en accord avec ASIO. Il faut que ASIO soit d'accord. Et c'est pour ça que je leur ai demandé, pour vous dire, ils croyaient que j'étais contre ASIO. Je leur ai dit, mais pas du tout. Moi, je vois la pharmacie mutualiste, c'est ASIO. Mais j'y vais depuis des décennies. J'y étais en tant qu'enfant avec mes parents, je continue à y aller, voilà. Donc, bien évidemment. Par contre, je me battrai jusqu'au bout pour les aplous, pour ma ville, pour nos agents et pour les familles. Et il est hors de question que le CCS de la ville de Firminy soit en faillite financière. Et là, vraiment, je suis abasourdi de leur réponse. C'est votre problème, excusez-moi. En gros, ça voulait dire, je le mets entre guillemets, on n'en a rien à foutre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça, et même l'État leur a demandé un effort financier. J'attends. Je leur ai même proposé, bah, pourquoi pas. Enfin, je leur dis, je suis prêt, avec mon équipe municipale, à envisager toutes les possibilités, à être dans une totale transparence. On n'a rien à cacher. Que s'ils le souhaitent, vu qu'ils sont investis, j'entends, sur ce projet, voilà, et que notre seul souci, nous, c'est que notre CCS ne soit pas en faillite financière, c'est pas possible, c'est inentendable pour les Applots. Que, à ce moment-là, pourquoi pas, s'ils sont contre la remunicipalisation des trois foyers, qui est la solution qui permettrait tout de suite au CCS de se retrouver dans une situation financière saine. Mmh. Voilà, c'est pour ça. Et ben, pourquoi pas qu'ils nous transfèrent deux établissements, qu'ils en gardent un, ou qu'ils nous en donnent un, qu'ils nous en transfèrent un, qu'ils en gardent deux. Enfin, j'étais prêt à envisager toutes les possibilités.
Donc, vous êtes ouvert à toutes les négociations.
Exactement. Et pour l'instant, il n'y a aucune écoute. Je dirais, comme Monsieur Louya, il y a une volonté de mener une politique du bulldozer, de passer en force, quelles que soient les conséquences, et je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Et je répète, une entreprise privée à but lucratif qui est implantée sur Firminy, mais ne ferait jamais ça. Ne ferait jamais ça.
Alors, on a beaucoup parlé de projets arrêtés ou modifiés ou modifiables. Quels sont maintenant les projets que vous, vous souhaitez lancer pour les 6 années à venir?
Alors, il y a déjà, je voulais vraiment remercier tous les collègues de notre équipe municipale qui sont très impliqués. Et franchement, je vous le dis sincèrement, vous le savez, j'ai été élu maire au cours de deux mandats, mais là où je suis très agréablement surpris et même impressionné, c'est que des collègues qui ont une activité professionnelle importante, et notamment dans le privé, je pense par exemple à ma collègue qui est adjointe au commerce, qui est coiffeuse, je pense à ma collègue qui est urbaniste, qui est adjointe à l'urbanisme, et à d'autres collègues aussi. Vraiment, d'ailleurs, je leur ai dit, je ne pensais pas qu'elle s'implique et qu'il s'implique autant, parce que quand vous êtes à votre compte, hein, c'est différent. Hein, voilà. Et vraiment, mais toutes et tous sont très impliqués. Et donc, on a déjà réussi, en 2 mois et demi, à faire avancer un bon nombre de dossiers. Je vous donne un exemple. Notre collègue adjoint à la sécurité, Robert Ibars, a mis en œuvre un des engagements sur lequel on s'était impliqué, c'est-à-dire depuis le 20 avril, pour vous dire en 3 semaines. On a été élu le 27 mars au soir par le conseil municipal. Le 20 avril, depuis le 20 avril, on avait pris un engagement de resécuriser les sorties, les entrées des 3 écoles de la ville de Firminy avec un fort trafic routier. Quelles sont ces 3 écoles? C'est l'école de la Tardive, c'est l'école du Mât et l'école de Fayol. Pourquoi ces 3 écoles? Parce qu'elles donnent sur une route départementale. Et donc forcément, dire route départementale, je prends l'exemple au niveau de l'école de Fayol, c'est un trafic avec un bon nombre de personnes qui vont en Haute-Loire. Voilà, route départementale, voilà, un trafic beaucoup plus important. Cette sécurisation, elle existait à mon époque. La municipalité de M. Louya avec M. Madot l'avait supprimée. M. Louya, M. Madot disaient, bah, c'est pas possible, on n'a pas les agents pour. Et là, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça doit être un miracle. Hein. On l'a mis en œuvre en 3 semaines, sachant qu'il y avait même en plus 2 semaines au niveau des vacances. Voilà. Pourquoi? Parce que la sécurité pour les enfants et les parents, bah, pour nous, ça fait partie des priorités. Voilà, exactement. Et alors, je le dis aussi, alors, ils sont là, soit nos policiers municipaux, nos SVP, à 8h30, à 11h30, à 1h30 et à 16h30. Je sais que de manière très exceptionnelle, il y a eu parfois un horaire où à une école, ça arrivait juste à la Tardive, ça arrivait, je sais aussi, à Fayol, où une fois, alors il y a peut-être eu 2 fois, hein, je ne suis pas au courant tout, bien évidemment, mais mon collègue s'en occupe de manière parfaite, avec son binôme, notamment Damien Ferrier, s'en occupe. Et donc parfois, il y a eu le binôme au niveau des policiers municipaux qui ne pouvaient pas être là. Pourquoi? Et je le dis aux auditeurs, si jamais les parents, ça vous arrive, si jamais il y a une urgence ailleurs, voilà, oui. Si jamais il y a une urgence ailleurs, de manière exceptionnelle, et je pense que vous le comprendrez, voilà, ça peut arriver, mais vraiment, je vous garantis de manière exceptionnelle qu'ils ne soient pas là. Voilà, ils savent, nos agents et policiers municipaux SVP, que ça fait partie des priorités. Je les en remercie d'avoir été aussi réactifs. Mais voilà, il faut avoir le souci, c'est un service public. Et si jamais il y a un problème important ailleurs, voilà, exceptionnellement, ils peuvent ne pas être là.
Alors avant de terminer cette interview, monsieur le maire, quel message adresseriez-vous aujourd'hui aux habitants de Firminy, même les électeurs qui n'auraient pas voté pour vous?
Alors, Et vous avez raison, le message que je veux leur adresser à tous les applous, qu'ils aient voté pour moi ou non, ou même qu'ils n'aient pas voté. Je me suis engagé avec mon équipe, et c'est ce que nous faisons les présents, je serai le maire de tous les applous. Nous serons l'équipe municipale de tous les applous, et c'est le cas. C'est le cas. Et pourquoi ? Parce que quand on est maire et quand on est élu, et d'ailleurs je l'ai dit lors du premier conseil municipal à l'ancienne majorité, on n'est pas là pour se servir, on est là pour être au service des habitants. Et je l'ai dit sur plein de choses. Je prends l'exemple du projet de la place du Breuil. Ce qui compte, c'est pas que ce projet me plaise. Je dirais, c'est pas ça l'importance. Mais moi, ce qui compte uniquement, avec donc ma collègue qui est adjointe au commerce, Valérie Peslon, c'est que ce projet plaise aux commerçants, aux artisans. Pourquoi ? Parce que on voit le déclin au niveau du commerce du centre-ville qui touche pas que Firmini, évidemment, mais beaucoup de villes, mais qu'on n'a jamais subi à ce point. Si on n'associe pas les commerçants, les artisans, ça ne peut pas marcher. Donc, notre seul souhait, c'est que là, alors on n'aura pas à ce qu'il y ait 100% qui soit pour, évidemment. Mais notre souhait, c'est qu'il y ait une nette majorité qui soit favorable, comme il y a une nette majorité des habitants et des usagers aussi. Parce que, à l'exemple de la rue du marché, qui a été fermée, etc., les artisans, commerçants, là, qui avaient mené cette campagne d'affiches que je suis allé voir, où la très grande majorité ont une perte de 40 à 50% de chiffre d'affaires, vous en doutez, quand vous perdez 40 à 50% de chiffre d'affaires, là, on ne regarde pas le maire s'il est droite de gauche, ça n'a aucune importance. Quand certains ont été obligés de supprimer des emplois, voilà. Et donc, ce que nous ont dit plusieurs professionnels, c'est quand ils ont sollicité leurs anciens clients, pourquoi vous ne venez plus ? Mais ils leur ont dit, mais attendez, soit pour se garer, ça devient de plus en plus compliqué, ou pour venir en centre-ville, vu que maintenant la rue du marché était fermée, on fait de longs détours. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne vient plus dans Firmini. Donc, vous voyez les conséquences. Et donc, ce qu'on veut aussi, c'est associer les usagers pour faire revenir notamment des habitants des villes alentours. Parce que l'une des forces de Firmini, c'est son commerce. Et il a beaucoup décliné. Et ça aussi, alors je pourrais rajouter sur plein d'autres dossiers, cet atout, on va tout faire, non seulement pour arrêter ce déclin, et pour redynamiser notre commerce de centre-ville. Par contre, vous en doutez, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça prendra du temps, ça prendra plusieurs années. Mais je vous garantis que l'ensemble de notre équipe municipale, dès à présent, on est à pied d'œuvre.
Marc Petit, merci d'être venu à Radio Ondaine, dans l'unité d'habitation Le Corbusier, pour faire un point sur votre mandat au bout de 3 mois, donc à la mairie de Firmini. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.